plutôt 12h31 pour parler bien français. Thomas Cluzel, Le Journal, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Ces dernières semaines, Alan Garcia s'était défendu en affirmant qu'il n'existait aucune dénonciation, preuve ou transfert d'argent qui le liait à un quelconque fait répréhensible. Et hier, juste avant son arrestation pour une affaire de blanchiment d'argent présumé lié au scandale Odebrecht, l'ancien chef de l'État péruvien s'est finalement suicidé.
Washington a significativement renforcé hier la pression sur la Havane en ouvrant la voie à des actions en justice contre des entreprises étrangères présentes à Cuba.
Et ce faisant, les États-Unis choisissent également de faire fi des menaces de représailles commerciales lancées par l'Union européenne, premier partenaire économique de l'île.
Quand Kim Jong-un relance le bras de fer avec Donald Trump.
Oui, hier, le dictateur nord-coréen a supervisé l'essai d'une nouvelle arme tactique, premier test rendu public par Pyongyang depuis l'échec du sommet de Hanoï.
En France, Force ouvrière a annoncé ce matin la suspension de sa participation aux concertations sur la réforme des retraites.
Le troisième syndicat de France n'entend pas cautionner de nouveaux reculs des droits. Voilà quelques semaines maintenant que l'exécutif entretient en effet le flou sur la possibilité de décaler l'âge légal de départ à la retraite pour financer de nouvelles dépenses, comme par exemple celle de la dépendance. Fin l'invité politique de la rédaction aujourd'hui dans une vingtaine de minutes. Jean Garrigue, professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Orléans. Et puis à 12h56, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Une grande table en jaune aujourd'hui, après l'écrivain, romancier Grégoire Bouillet. Nous recevons dans la deuxième partie de l'émission un philosophe, un penseur radical et marxiste. Alain Badiou sera avec nous à l'occasion de l'apparition d'un court essai. Méfiez-vous des blancs habitants du rivage, c'est chez Fayard.
Merci et à tout à l'heure. C'est le dernier rebondissement dramatique de ce dossier tentaculaire, le scandale de corruption Odebrecht, du nom de ce géant brésilien du bâtiment, lequel a acheté une bonne partie de la classe politique latino-américaine. Hier, juste avant son arrestation par les forces de police, Alan Garcia s'est tiré une balle dans la tête. La justice péruvienne avait décidé de placer l'ancien chef de l'État en détention provisoire pendant 10 jours dans le cadre de cette vaste enquête pour fraude. En l'occurrence, Alan Garcia, ce colosse charismatique d'1m90 qui aura longtemps bénéficié de l'aura du persécuté politique, était soupçonné d'avoir reçu des pots de vin de la part de l'entreprise de BTP afin de faciliter la construction d'un métro dans la capitale Lima. Alors, nombre de Péruviens en réalité lui vouaient encore une haine tenace, notamment pour sa gestion désastreuse durant son premier mandat présidentiel, lorsque l'inflation atteignait des sommets, une période synonyme pour beaucoup de chaos économique, mais aussi de corruption. De son côté, le gouvernement a lui décrété 3 jours de deuil national et ordonné la mise en berne du drapeau national sur les institutions publiques. En revanche, la famille a elle demandé aux autorités de ne pas s'impliquer dans les obsèques et même elle a rejeté un enterrement avec les honneurs d'État, comme le veut pourtant la coutume pour un ancien président. Reportage hier soir à Cusco, signé Amanda Chaparro.
Hier soir à Cusco, au siège de la PRA, le parti de l'ex-président Alan Garcia, des dizaines de personnes s'étaient rassemblées pour pleurer le leader défunt. Sous son portrait géant, Rosa Melia, militante de la première heure.
Nous sommes en train d'essayer d'assimiler ce qui paraît incroyable à tout le monde. On pleure son absence.
Le geste a surpris le pays tout entier. Pour les militants comme Luis Aguilar, secrétaire régional, Alan Garcia se sentait acculé par la justice.
Si notre président est parti en voyage vers les étoiles, c'est la conséquence d'une persécution politique et juridique qui a duré plus de 30 ans. Ce geste est important pour tout le parti, parce qu'il a refusé de se laisser humilier.
Un peu plus loin, sur la place d'armes de Cusco, d'autres commentent, encore incrédules, la nouvelle de son suicide.
Je suis consterné, ça nous affecte tous, qu'on soit sympathisant ou non. Personne n'attendait ce geste d'un leader comme lui.
Il a volé le pays tout entier, il était tellement compromis. Mais il a refusé d'affronter ça. Pour moi, c'est révoltant.
Alan Garcia, adulé autant que haï, était l'un des personnages les plus controversés de la politique péruvienne.
Comment limiter l'impact de l'inflation galopante qui accessoirement pourrait aussi menacer sa réélection en octobre prochain? Hier, le gouvernement argentin du président Macri a annoncé le gel des prix des produits de base, prix qui ont explosé plus 55% sur les 12 derniers mois par ailleurs. Et jusqu'à la fin de l'année, les autorités se sont engagées à ne pas introduire de nouvelles hausses des tarifs des services publics. S'agissant du Venezuela, à présent, les derniers dernières prévisions du Fonds monétaire international sont tout simplement alarmantes. Une chute de 25% du PIB cette année, une hyperinflation de 10 millions de pourcents et un taux de chômage de près de 45%. C'est donc dans ce contexte que le président élu Nicolas Maduro a qualifié d'illégal et immoral les sanctions imposées hier par les États-Unis contre la Banque centrale du Venezuela. Sanctions destinées à renforcer donc la pression de Washington sur le gouvernement de Caracas. Enfin, toujours au chapitre des sanctions, voilà plusieurs mois maintenant que les États-Unis accentuent leur pression sur le gouvernement socialiste cubain, qu'ils accusent d'ailleurs de soutenir militairement le Venezuela de Nicolas Maduro. Hier, la Havane a rejeté la décision de Washington de permettre des actions en justice contre les entreprises étrangères présentes à Cuba, une mesure qui pourrait décourager les investissements étrangers dans l'île qui en a pourtant cruellement besoin pour relancer son économie en crise et minée par les pénuries. Ou dit autrement, Donald Trump ne tourne pas ici seulement le dos au rapprochement entamé sous le mandat de son prédécesseur démocrate Barack Obama, il ouvre également un nouveau et multiple front diplomatique. Les explications d'Olivier Poujade.
Derrière ce nouveau front ouvert par Donald Trump se cache une guerre idéologique contre ce que le président américain appelle la troïka de la tyrannie. Le Venezuela, le Nicaragua et donc désormais Cuba, trois États socialistes qu'il compte étouffer économiquement en imposant un régime de sanctions à leurs partenaires étrangers. Comme avec l'Iran, c'est au nom de l'extraterritorialité du droit américain que des milliers d'actions en justice pourront être menées à partir du 2 mai pour stopper la relance économique de l'île et pénaliser les entreprises qui ont choisi de s'y implanter. En tête de cette liste, l'Union européenne avec un demi-milliard d'euros investis en 2017, une quarantaine d'entreprises espagnoles y sont notamment présentes. Le Premier ministre Pedro Sanchez a immédiatement réagi hier en affirmant que cette mesure de l'administration Trump porterait préjudice au bien-être de la population cubaine. La France est également présente à Cuba dans des domaines comme l'hôtellerie ou le développement d'infrastructures. La SNCF vient d'annoncer la signature d'un contrat dans les prochaines semaines pour rénover le système ferroviaire et doubler les capacités de l'île dans ce secteur d'ici 2025.
Le ministère américain de la Justice doit publier aujourd'hui le rapport d'enquête finale de l'enquête russe du procureur spécial Robert Mueller, mais dans une version légèrement expurgée d'une série d'informations confidentielles, des détails risquant notamment de révéler les sources des enquêteurs ou bien de compromettre des enquêtes en cours. En revanche, le suspense reste entier quant au fait de savoir si cette publication permettra de clore définitivement cette saga politico-judiciaire, laquelle aura empoisonner les deux premières années du mandat de Donald Trump et le cas échéant lui permettre de se tourner résolument vers sa campagne de réélection. Les rebelles au Yémen ont accusé hier Washington de tirer les ficelles de la guerre après le veto du président Donald Trump à une résolution du Congrès américain l'exhortant à cesser tout soutien à la coalition militaire dirigée par les Saoudiens et combattant les insurgés Houthis. Dans le même temps, les ONG sur place tirent encore une fois la sonnette d'alarme et font état de plus de 2000 nouveaux cas de choléra chaque jour dans ce petit pays pauvre de la péninsule arabique. Un quart des personnes touchées sont des enfants de moins de 5 ans. Quant à la ministre française des Armées, Florence Parly, elle a déclaré ce matin ne pas avoir d'éléments de preuve montrant que des armes de fabrication française utilisées par l'Arabie Saoudite auraient fait des victimes civiles dans la guerre au Yémen. À ma connaissance, ces armes ne sont pas utilisées de façon offensive, a-t-elle précisé. Florence Parly, qui réagissait là à des informations du collectif d'investigation Disclose et de la cellule d'investigation de Radio France, qui, selon un rapport de la direction du renseignement militaire classé secret défense, laisse entendre que des armes exportées par la France seraient utilisées dans la guerre en cours, y compris dans des zones civiles. Enfin, les exportations d'armes françaises se portent au mieux. Elles auront représenté en 2018 quelque 9 milliards d'euros, soit une progression de 30% par rapport à l'année précédente. C'était il y a un an, presque jour pour jour, la Corée du Nord prenait une décision spectaculaire en annonçant la fin des essais nucléaires et des tests de missiles intercontinentaux, ainsi que la fermeture de son site d'essais atomiques. Autant dire que l'annonce hier par les médias d'État nord-coréen de l'essai réussi d'une nouvelle arme tactique guidée ne fait que souligner, si toutefois il fallait encore s'en convaincre, combien les flatteries de Donald Trump n'auront pas suffi à faire plier son ami Kim Jong-un, lequel aurait d'ailleurs lui-même dirigé l'essai de tir. Alors c'est la deuxième fois en réalité que la Corée du Nord affirme ainsi avoir procédé à un essai d'armes depuis le début de ses négociations avec les États-Unis. Du coup, et étant entendu que depuis plusieurs mois déjà les doutes s'étaient accumulés quant à l'avenir du processus de dénucléarisation de Pyongyang, comment faut-il interpréter ce nouveau message envoyé par Kim Jong-un à Donald Trump. Doit-on en conclure que si les négociations avec Washington ne reprenaient pas, les deux pays pourraient de nouveau aller droit à l'affrontement? Et le cas échéant, quelle nature pourrait prendre cette nouvelle opposition? Au-delà de l'échange d'insultes, un conflit militaire est-il à craindre? Les précisions à Séoul du correspondant de RFI pour France Culture, Frédéric Ojardias.
Cet essai nord-coréen est avant tout un message. La mystérieuse arme tactique ne semble pas être un missile intercontinental et aucun tir de missile n'a été détecté. Selon les armées américaines et sud-coréennes, cet essai, supervisé par Kim Jong-un, ne viole donc probablement pas les résolutions de l'ONU. C'est en réalité une provocation soigneusement calibrée et limitée, suffisante pour attirer l'attention des États-Unis, mais pas assez grave pour justifier l'instauration de nouvelles sanctions. Le régime cherche ainsi à faire pression sur le gouvernement de Donald Trump. Dans un discours donné la semaine dernière, Kim Jong-un avait déjà donné aux États-Unis jusqu'à la fin de l'année pour trouver un compromis sur la question nucléaire. Aujourd'hui, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a même déclaré refuser de travailler avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qualifié de vulgaire, dangereuse et immature. Le régime a cependant rappelé que Kim Jong-un s'entendait bien avec Donald Trump, signe de sa volonté de poursuivre l'option diplomatique. Pyongyang demande un allègement des sanctions en échange de mesures partielles de démantèlement, tandis que Washington exige de son côté une dénucléarisation complète et refuse une approche par étapes. Les pourparlers sont donc dans l'impasse, mais l'affrontement reste pour le moment limité au terrain diplomatique.
Le soulagement en Indonésie où le président sortant Joko Widodo semble se diriger vers une réélection confortable. Les dernières estimations le créditent d'une avance de plus de 10 points sur son rival, l'ex-général Prabowo Subianto, lequel s'était rapproché des groupes les plus radicaux à l'occasion d'une campagne électorale dominée par l'influence croissante de l'islam conservateur dans le plus grand pays musulman du monde. C'est une première défection et peut-être aussi le début d'une longue série force ouvrière qui ne décolère pas depuis que l'exécutif multiplie les déclarations contradictoires sur le recul de l'âge de départ à la retraite, a décidé de mettre ses menaces à exécution en devenant le premier syndicat à suspendre sa participation à la concertation sur la réforme en cours. Alors depuis ce matin, une réunion a lieu à Matignon avec plusieurs ministres mais aussi le haut commissaire à la réforme, Jean-Paul Delevoye, lequel menace également de jeter l'éponge si le gouvernement décidait effectivement de reculer l'âge de départ. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors le claquage de porte de FO n'est pas véritablement une surprise Anne-Laure, mais il acte un peu plus encore donc des discussions décidément sous tension.
Oui, Force Ouvrière a envoyé hier une lettre à Jean-Paul Delevoye, le grand ordonnateur de cette réforme des retraites, un courrier dans lequel Yves Verrier, le secrétaire général du syndicat, explique qu'il entend ainsi ne pas cautionner de nouveaux reculs de droits et où il considère que la réforme à venir telle que le laisse présager Matignon ne se réduira qu'à un seul concept: baisser les dépenses publiques. Une première défection donc, intervenue, vous le disiez, à la veille d'une réunion à Matignon sur le sujet, une réunion qui commence en ce moment et qui voit Jean-Paul Delevoye affronter en quelque sorte tous les ministres qui ont, en l'espace de moins d'une semaine, mis à mal un projet élaboré depuis bientôt 18 mois. Agnès Buzyn en tête, mais aussi Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Édouard Philippe, quatre membres du gouvernement qui ont tous indiqué qu'il allait falloir se faire à l'idée d'un recul de l'âge légal de départ à la retraite. Pourtant, si un point d'accord avait émergé de cette longue concertation, c'était bien celui-là. On ne touche pas aux 62 ans, plus qu'un point d'accord. C'était même un prérequis issu d'une promesse de campagne du candidat Macron. Ce midi, donc, Jean-Paul Delevoye en discute avec ceux-là même qu'il avait qualifié en privé de con de Matignon. Désormais, il ne peut plus se vanter d'avoir une union syndicale sur son projet, car CFO a claqué la porte en signe de protestation face à la reprise en main du gouvernement sur un point phare de la réforme. Le syndicat n'a en fait jamais accepté l'idée du passage d'une retraite multirégime à un système universel à points. Cela dit, d'autres syndicats menacent de faire de même. À quoi bon continuer une concertation si en sous-main le gouvernement a déjà tout décidé, disent-ils, et ils réclament une clarification. Elle interviendra peut-être après la réunion de ce midi.
Merci Anne-Laure Chouin. Trois jours après le spectacle dantesque de l'incendie de Notre-Dame, décidément, les flammes de la cathédrale n'en finissent plus de rallumer les interrogations quand certains voient déjà dans cette catastrophe en pleine semaine sainte un sinistre présage du déclin du christianisme. D'autres y perçoivent le symbole d'une France déchirée et divisée. Que penser de ce flot d'argent annoncé pour la reconstruction de la cathédrale? Plus d'un milliard d'euros de promesses de dons collectés en un temps record, générosité ou opportunisme. Et d'ailleurs, faut-il seulement parler de reconstruction ou de restauration? Le concours international d'architecture annoncé hier par l'exécutif devra permettre de trancher trancher la question de savoir s'il faut reconstruire une flèche à l'identique ou en inventer une autre adaptée aux techniques et aux enjeux de notre époque. On parle également de la construction sur le parvis de Notre-Dame d'une possible cathédrale éphémère en bois, le temps des travaux de reconstruction. Enfin, faut-il le rappeler, sans cet événement, Emmanuel Macron se serait adressé lundi soir à la Nation pour exposer ses réponses au grand débat national et à la crise des gilets jaunes, de quoi embraser un peu plus encore l'attente d'un miracle comptable. Sauf que le temps n'est visiblement toujours pas venu. Le chef de l'État a prévu de recevoir aujourd'hui à l'Élysée les sapeurs-pompiers intervenus pour limiter la propagation de l'incendie qui a ravagé la cathédrale avant de remettre tout à l'heure la Légion d'honneur à Michel Houellebecq, l'écrivain visionnaire et polémique à la fois l'enfant terrible des lettres françaises. Lui appartient tout entier au cinéma. Lui, c'est évidemment Antoine Guillot. Bonjour Antoine.
Bonjour Thomas.
Ce matin, les organisateurs du 72e Festival de Cannes ont dévoilé non seulement la longue liste des stars qui auront rendez-vous donc sur la croisette du 14 au 25 mai prochain, mais plus encore et surtout la vingtaine de films donc venant du monde entier qui seront en compétition pour la Palme d'Or.
Alors il y en a un qui n'y est pas, qui est très attendu et qui viendra peut-être s'il est prêt, c'est Quentin Tarantino, avec Il était une fois à Hollywood. Mais ce qui a été dévoilé pour l'instant par Thierry Frémaux, 19 films en compétition. Donc c'est assez excitant sur le papier. Vous savez que chaque année, il faut équilibrer entre les grands habitués et un relatif renouvellement. C'est le cas cette année pour une sélection qu'on nous annonce romantique et politique, mélangeant films d'auteur et de genre. Et c'est vrai qu'il va y avoir de l'horreur zombie, des policiers, de la guerre. Il y a aussi des réalisatrices, des premiers films et des Américains. Alors côté valeur sûre, Jim Jarmusch, film de genre avec des zombies qui va ouvrir la compétition puisqu'il est dans la compétition avec The Dead Don't Die. Pedro Almodovar qui revient pour la on ne sait combienième fois avec Douleur et Gloire, qui est un film qui revient sur sa propre filmographie. Les frères Dardenne, déjà deux palmes d'or, donc peut-être en auront-ils une troisième avec le jeune Ahmed, l'itinéraire d'un jeune djihadiste en Belgique, et dans les vétérans de la compétition avec déjà deux palmes d'or, Ken Loach, Sorry We Missed You. Thierry Frémaux a dit que c'était un film très Ken Loachien, comprendra qui pourra. Vous avez aussi Terrence Malick qui sera là, l'inévitable Xavier Dolan. Et côté français, alors on a une sélection paritaire côté français avec deux jeunes femmes en compétition. Céline Sciamma, portrait de la jeune fille en feu qui avait fait un malheur avec Bande de filles à la quinzaine des réalisateurs. Là, elle signe un film en costume avec Adèle Haenel. Justine Trier, elle-même avait fait un carton à la Semaine de la Critique avec Victoria. Elle reprend sa comédienne Virginie Efira pour Sibyl. Et puis du côté des hommes, Arnaud Desplechin, un grand habitué qui lui fait un film de policier à Roubaix. Et l'autre film, alors là, c'est quelqu'un qui a fait, s'est fait connaître sur Internet avec Les Misérables, court-métrage. Eh bien, il en propose la version longue, c'est Lajli, qui va plonger des policiers de la BAC, cette fois pas à Roubaix, mais à Montfermeil. Et puis, vous aurez dans les grands anciens des hommages à Alain Delon, Palme d'Or d'honneur. On verra les films d'Alain Cavalier. Il y aura même Claude Lelouch qui reviendra 53 ans après avec les personnages de ce qui lui avait valu une Palme d'Or, Un homme et une femme. Donc, Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée dans Les plus belles années d'une vie. Et vous aurez même Elton John. Il y a un biopic d'Elton John, Rocketman. Il paraît qu'il va jouer du piano.
Merci Antoine Guillot. On rappellera donc que le 72e Festival de Cannes déroulera le tapis rouge sur la croisette à partir du 14 mai prochain. L'invité politique de la rédaction à présent aujourd'hui, Jean Garrigue, professeur d'histoire contemporaine à l'Université d'Orléans. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à m'écouter pour vous interroger, Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour.
Une première question monsieur Garrigue, parmi les mesures qui devaient être annoncées lundi soir par Emmanuel Macron en réponse au grand débat et qui ont assez largement fuité en réalité dans la presse, on trouve notamment la suppression de l'ENA. Selon vous, est-ce véritablement de nature à réconcilier les Français avec leurs dirigeants ou bien s'agit-il ni plus ni moins que d'une concession au populisme ambiant ?
Totalement. Mesure totalement démagogique, concession au populisme. Il faut quand même se rappeler que l'ENA a été conçu en 1945 pour promouvoir justement des modes d'intégration à la fonction publique les plus démocratiques possibles, pour trancher avec ce qui existait avant, que c'est une idée du Front Populaire, de Jean Zay, qui était un ministre radical, mais de gauche du Front Populaire, que c'est le communiste Maurice Thorez qui l'a mis en place à la Libération, certes sur une idée de Michel Debré, du gaulliste Michel Debré. Donc si vous voulez, l'esprit de l'ENA, c'était pas du tout un esprit de sélectivité, d'élitisme, etc. Il faut reconnaître, ce qu'a montré déjà à l'époque, dans les années 60, les travaux de Pierre Bourdieu, que c'est devenu une sorte de fabrique à former, on va dire, une technocratie un peu trop homogène. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits depuis les années 60 pour diversifier le recrutement. Il y a même eu une promotion en 2004, qui était la promotion Senghor, si je ne m'abuse, à laquelle participait Emmanuel Macron, et qui a refusé le fameux classement qui, justement, opère la sélection fatale, justement, vers les grands corps. Donc, vous voyez, il y a eu des efforts, y compris du temps d'Emmanuel Macron, mais très clairement, ça fait partie des ajustements cosmétiques qui, à mon sens, symboliquement peuvent avoir une certaine valeur, comme par exemple la suppression des privilèges des présidents de la République, des anciens présidents de la République ou des anciens premiers ministres. Mais tout ça, ce ne sont que des symboles un petit peu désuets et qui ne pèsent pas fondamentalement sur le rapport des citoyens à leur État.
Une question d'Anne Fauquemberg.
Comment vous analysez ces fuites dans la presse cette semaine? Emmanuel Macron a-t-il complètement raté sa sortie du grand débat ou c'est une stratégie de communication?
Je dirais ni l'un ni l'autre. Je pense que il était, moi, il m'a paru assez logique qu'après cette forme de catastrophe nationale, qui était l'incendie de Notre-Dame, il y ait une prise de parole. Je dirais dans l'esprit de ce que sont la Ve République, la verticalité de la Ve République, ce qu'est un président de la République, qui est l'incarnation d'une nation. Il était normal qu'il prenne la parole et qu'il y ait une sorte de temps de deuil. Après le traumatisme, qu'il y ait eu des fuites, là aussi, ça fait partie du jeu politique. Est-ce qu'il y a une instrumentalisation par le pouvoir de ce délai de latence qui suit l'incendie? Certainement qu'il y a une volonté politique d'utiliser ce moment, mais vous voyez, je suis pas sûr que pour l'instant il y a un véritable bénéfice politique pour Emmanuel Macron. Au contraire, le maître des horloges a été rattrapé par l'événement politique, comme c'est souvent le cas, et comme c'est bien, parce que moi je vois quand même beaucoup de choses très positives dans ce drame qui est arrivé, parce que une nation, à mon sens, a besoin de manière récurrente d'avoir des événements comme ça qui restaurent un tout petit peu cet esprit d'unité nationale qui en fait n'existe plus dans une société totalement fragmentée comme la nôtre, et on a besoin quelquefois d'avoir ce type de rappel.
Et à ce sujet, quelle analyse vous faites de la nomination d'un général, en l'occurrence Jean-Louis Georgelin, pour superviser l'avancement du chantier de Notre-Dame? Ça s'inscrit dans une tradition historique?
Ça, je peux pas aller jusque-là. Je dirais que c'est un homme, semble-t-il, qui a fait ses preuves dans l'efficacité des fonctions qu'il a exercées dans les états-majors ou ailleurs. Donc qu'il y ait comme ça une que ça réponde aussi, d'ailleurs, mine de rien, à une sorte d'état d'esprit collectif qui est un peu dans l'air. C'est ce besoin d'autorité. On a parlé, vous souvenez-vous, à propos de certains gilets jaunes, du général de Villiers, comme leur une forme de recours pour certains gilets jaunes. Bon, ça c'est un petit peu dans l'air aussi d'avoir cette figure d'autorité là, d'efficacité, d'énergie. Maintenant, si l'on considère que ça peut être un pari là encore enthousiasmant de reconstruire dans les 5 ans qui viennent, pourquoi pas un militaire.
Vous faites partie des intellectuels qui ont soutenu Emmanuel Macron à la présidentielle. On l'entendait tout à l'heure avec Léna, on vous sent un petit peu déçu là sur la sortie du grand débat. Qu'est-ce que vous lui recommanderiez maintenant à Emmanuel Macron?
Ça, on renvoie en permanence à ce soutien qui découle d'une réflexion qui est la mienne, qui est propre, sur ce que je considère comme la nécessité, dans un moment de crise profonde de la représentation démocratique et au-delà des sociétés occidentales, d'un rassemblement national, d'une forme d'union sacrée, si vous voulez. Donc, pour moi, Emmanuel Macron a, à ce moment-là, permis de réaliser une amorce de ce que j'aurais souhaité, une union beaucoup plus large, c'est-à-dire que ce qui s'est réuni autour de La République En Marche. Maintenant, ce que je lui conseillerais, c'est de manière très rapide et clair, de rompre d'abord avec la gouvernance jupitérienne. Ça me paraît une nécessité absolue, que non seulement la crise des gilets jaunes, mais que l'opinion publique tout entière soutient. Et puis d'avoir une inflexion, évidemment, vers la compréhension de ce que représente l'aspiration de la société française à la solidarité, à la proximité et à la citoyenneté. Il faut travailler dans ces axes-là et les travailler de manière très sérieuse. Il faut qu'il y ait un véritable acte 2 du quinquennat, pour moi.
On parle, excusez-moi, je vous coupe, d'une conférence sociale ce matin. Un des proches d'Emmanuel Macron voilà, annonce, enfin annonce pas, mais enfin dit qu'il pourrait y avoir donc cette conférence sociale sous la forme de séries de réunions jusqu'en juin, avant des annonces en juillet. C'est la bonne méthode pour en sortir ?
Je la crois indispensable. Parce qu'elle sort d'abord de la présidence jupitérienne, c'est l'appel aux corps intermédiaires, dont on sait à quel point ils se sont sentis écartés de la réflexion depuis les débuts du quinquennat. Et puis ça va dans le sens de ce que Laurent Berger, d'ailleurs, appelait dès le début de la crise un nouveau pacte social. Il faut absolument un nouveau pacte social. Ça n'est d'ailleurs pas un enjeu pour le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est un enjeu pour la société française depuis 30 ou 40 ans.
Et voilà. On terminera par ces mots. Merci Jean Garrigue, professeur d'histoire contemporaine, je le rappelle, à l'Université d'Orléans, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Merci également à Anne Fauquemberg. On termine avec un mot de météo, du soleil sur l'ensemble du territoire, à l'exception du sud-ouest où un épais voile nuageux se maintiendra tout l'après-midi. Les températures, elles varieront entre 19 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.